Morning. My name is Michael Martin, and welcome to the second half of the first session and second day of this particularly important, timely convocation of scholars. We now begin the second paper. I've asked our speaker to, so that we can have substantial conversation, to speed it up, as it were, and he's agreed to do that. So let's begin immediately with Professor Vinod Houchard, and of course I'm doing a horrific translation. Please.
Thank you. I'm going to give my talk in French for sake of clarity and maybe for the satisfaction of a part of the audience, which is here today, and being the, I think, first one to speak in French. However, feel free to ask your questions and to make your comments in English at the end. So I will try to speed up a little bit. Je vais essayer d'aller un peu plus vite que ce qui était prévu, ce qui est un exercice pas évident, parce que j'ai une perspective comparative, comme l'a dit Joanne un peu plus tôt. Quelqu'un qui présentait nos travaux, une perspective comparative, donc qui en particulier dans cette présentation, ne va pas rentrer dans le détail de chaque cas. Mais mon idée, c'est d'essayer de monter en généralité et de comprendre, c'est le titre de ma communication, en quoi les politiques mémorielles sont des politiques symboliques, qu'est-ce que ça veut dire ? Et en posant cette question, c'est tout de suite placer le focus sur la dimension politique des choses en totale continuité avec l'intervention d'Olivette de tout à l'heure, on a vu les figures politiques de James Cameron, on a vu aujourd'hui la venue de Christiane Taubira, n'est pas anodine non plus de ce point de vue, c'est une question avant tout de politique. Il y a la mémoire collective, il y a la mémoire publique, et il y a qu'est-ce qu'on en fait pour revendiquer des droits, pour obtenir une place dans la société. C'est ça que je vais interroger. Alors je vais commencer par... en reprenant un peu ce qu'avait dit Abdoulaye hier en commençant sa présentation, il a repris une citation de Dubois, ou rather Dubois, et où il disait Dubois voyait le XXe siècle comme le siècle de la question raciale. Abdoulaye s'est demandé si le XXIe siècle sera pas le siècle des questions mémorielles, finalement. Est-ce que c'est pas la mémoire de l'esclavage qui va devenir l'alpha et l'oméga des enjeux raciaux ? Bonne question, mais il faut probablement aller plus loin. Pourquoi est-ce que la question mémorielle est en train de devenir, dans certains contextes, et en particulier en France, et peut-être en France plus qu'ailleurs, l'alpha et l'oméga de la justice sociale ? Olivette l'a précisé ce matin, c'est quand même l'horizon qui est poursuivi. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas poursuivie, cette justice sociale, dans le champ de l'accès à l'emploi, de l'accès au logement, de la lutte contre les discriminations, dans tous les secteurs, dans les statistiques ethniques, sur le fait de compter la réalité ? On se rend compte en France que... les interventions l'ont bien montré ces derniers jours. La plupart, si ce n'est tous, les mouvements antiracistes centrés sur l'identité raciale de ces dernières années ont investi la question mémorielle. Le CRAN, qui a été créé à une époque où il était question d'ouvrir la France aux statistiques ethniques, de lutter contre les discriminations concrètement, se retrouve aujourd'hui avec comme, presque pas cœur de métier, mais comme activité principale, d'organiser et d'intervenir dans les commémorations de l'esclavage et d'emmener le dossier de la réparation. Pourquoi ? C'est une des questions que je vais poser. Alors une des façons d'y répondre, c'est de s'interroger sur ce qu'est une politique symbolique, donc, et d'observer qu'elle n'est pas symbolique au sens vulgaire du mot, qui voudrait dire qu'elle ne sert à rien, qu'elle est là pour masquer une réalité dans laquelle on n'est pas inactif. Symbolique, il faut le prendre dans toute la tradition anthropologique, sociologique et politique de ce qu'il y a derrière ce mot. Une société constituée de systèmes de sens, de systèmes de représentation, qui sont des systèmes de classements sociaux. L'exclusion, la position d'insider, d'outsider, se jouent dans des relations de prestige, des relations d'honneur, qui sont intégrées dans des structures cognitives, structures symboliques, sociales. Bon, c'est une banalité de le dire, mais je pense qu'il faut partir de cette réflexion-là. Que David Cameron soit réélu en Grande-Bretagne, par exemple, signifie beaucoup sur la portée symbolique, la durabilité symbolique des représentations dans le peuple britannique au sens large d'une certaine classe sociale qui domine la société depuis. des temps immémoriaux et qui continuait à la dominer. Une partie de la force de cette société, c'est son prestige et son rang social pour la société britannique. C'est pas seulement sur la qualité des politiques publiques de James Cameron qu'on le juge, c'est aussi sur cette dimension qui est un ailleurs que la science politique, à mon avis, n'investit pas assez. Il y a vraiment une dimension symbolique très, très importante. Dire que ce symbolique structure notre monde social, que les relations de prestige, etc., sont enracinées, c'est pas adopter une position structuraliste, un peu anachronique, lévi-straussienne ou althusserienne, qui consisterait à dire que c'est comme ça une fois pour toutes. Voilà. Là où il faut être un peu plus subtil, c'est de considérer que ces structures cognitives et symboliques peuvent évoluer. Et le jeu des acteurs sociaux est de les faire évoluer. Des entrepreneurs de mémoire sont des gens qui se saisissent d'un sujet pour essayer de faire évoluer nos façons de penser, de faire réorienter le gouvernement des consciences. Le gouvernement des consciences, c'est pas dans la vision totalitaire, c'est dans l'idée que la violence symbolique, le pouvoir de l'État, s'enracine dans l'ordre des représentations. Mais il n'est pas figé. On peut essayer de le transformer, même si c'est une activité difficile. Tout ça fait une matière sociale, mais ça fait une matière politique. C'est là que sont les politiques mémorielles, à mon avis. En sciences politiques, on a... Bon, je passe sur la revue de littérature théorique. Il y a peu de travaux, en gros, sur ce sujet-là. C'est dommage. Moi, je viens de la science politique. Je ne suis pas historien. Et de l'étude des politiques publiques, en plus. Donc vraiment, un angle spécifique. Il y a un point d'appui intéressant chez un sociologue américain qui travaille complètement sur autre chose, mais c'est évidemment lié, qui s'appelle Joseph Gusfield, qui a, dans un de ses livres phares des années 60, montré... Il est mort l'année dernière. Non, au début de l'année. Qui a montré que sur une politique particulière très américaine aussi, la prohibition de l'alcool au début du siècle aux États-Unis, ce qui se jouait était moins une politique centrée sur les enjeux de santé publique. Il ne s'agissait pas de protéger les Américains d'une consommation excessive d'alcool. Il a parfaitement montré qu'il s'agissait de valoriser la supériorité d'une norme de comportement basé sur les valeurs et l'éthique WASP américaine, White Anglo-Saxon Protestant, qui se présentait et se légitimait comme ayant un comportement vertueux et moral, qui consistait à boire moins d'alcool ou pas d'alcool, par rapport à des outsiders qui étaient en train de monter dans la société américaine, qui étaient les catholiques venus de pays méditerranéens, les Italiens, ou les Irlandais, et qui étaient renvoyés à un stigmate social lié à l'alcoolisme à travers cette politique publique. Donc derrière cette politique publique sur un sujet particulier, il y a des jeux de légitimation, de classements sociaux et de prestige social. Qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre la mémoire officielle, c'est important, la mémoire officielle de l'État, celle de la parole publique, de la loi mémorielle? Eh bien, on prend pied sur ces jeux de prestige, de valeur, de qui sont les inclus et les exclus, qui a le droit d'appartenir, qui n'a pas le droit. Donc c'est une guerre sociale qui se joue à travers la mémoire. Excusez-moi si je parle un peu vite, mais comme j'ai envie de dire beaucoup de choses et peu de temps, j'en suis réduit à cet exercice. Je passe aussi sur toutes les références sur tout ça, elles sont dans le papier, mais bon, on pourra y revenir. Alors, un premier point. Quand on s'intéresse, j'ai écrit très récemment quelque chose sur les entrepreneurs de mémoire. Quand on s'intéresse aux entrepreneurs de mémoire, on pénètre dans ce terrain-là, des luttes symboliques. Quand on interroge ce que j'ai fait à Nantes, à Bordeaux et aussi à Liverpool, quand on interroge des acteurs qui s'intéressent à ce sujet, dans le cadre d'entretiens semi-directifs, des gens qui sont mobilisés, qui font des manifestations, commence toujours ou très rapidement par nous parler des questions de racisme et de discrimination. C'est systématique. Vous ne serez pas surpris ici d'entendre ça. Mais ça pose quand même une question. Pourquoi est-ce que ces acteurs qui s'opposent à un fait de discrimination raciale le traduisent dans le terme de la mémoire? Première question importante. En partant des réflexions d'Axel Honneth sur la reconnaissance, qui mériterait d'être développée, on peut considérer que l'expérience du racisme est une expérience particulière de ce qu'il appelle l'expérience du mépris, le mépris social. C'est-à-dire que vous considérez avoir vous-même une identité complexe, valorisée, a priori, mais dans vos relations sociales, qui peuvent être à un niveau politique aussi, hein, ce que l'image des politiques vous renvoie, mais dans vos relations sociales plus quotidiennes, qui sont par exemple vous voir refuser un logement parce que vous êtes originaire des Antilles et que, bon, on sait bien que les Antillais ne payent pas bien leur loyer, etc. Ça, c'est des cas vécus. Ben, vous faites une expérience de stigmatisation, de racialisation, certes de racialisation, mais de stigmatisation. Il ne s'agit pas juste d'être classé racialement, blanc, noir ou autre, mais d'être classé sur une échelle verticale aussi. Donc vous êtes ramené au bas de la société. C'est l'expérience du mépris. Cette expérience du mépris, quand on continue dans les entretiens, on se rend compte qu'elle est redoublée, elle est quotidienne, et elle est redoublée par les politiques de l'État, par la position de l'État à travers sa mémoire officielle de l'esclavage. Les entrepreneurs de mémoire, qui sont les leaders associatifs, réussissent par un jeu de transcodage à faire comprendre ou à permettre à ces personnes de prendre la mesure d'une double discrimination, d'une double expérience du mépris, la deuxième étant celle officielle de l'État. Et donc, ils orientent la lutte raciale, la lutte antiraciste, vers le changement de cette mémoire officielle. Elle est méprisante quand elle est une mémoire abolitionniste qui fait peu de cas des résistances noires et des marronismes ou de la souffrance, ce qui était le trope français autour de Schœlcher et qui reste encore le trope britannique autour de Wilberforce. Elle est aussi méprisante, cette mémoire, et c'est un autre cas de figure qui est peut-être même plus fréquent encore que la mémoire abolitionniste, quand elle n'existe pas, quand il n'y a rien qui est fait sur ce sujet. Et à Nantes et à Bordeaux, pendant des décennies et des décennies, il n'y a absolument rien eu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mémoire, effectivement, mémorielle ou de mémoire des résistances. Il n'y avait juste pas de mémoire, pas d'abolition non plus. Wilberforce, c'était bien montré par des historiens britanniques, était célébré, en fait, à des moments assez ponctuels de l'histoire du pays, des moments de commémoration officielle, dans sa ville natale de Hull, mais apparaît dans le reste du pays, il n'était pas très présent. C'est pas vrai, par contre, tout ça, dans les sociétés antillaises elles-mêmes, où il y a eu un culte de Schœlcher et un culte de Wilberforce. Mais là, je parle des entre guillemets, métropoles. Cette expérience du mépris, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est transcodée dans les termes mémoriels. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je pense, c'est mon hypothèse, il faudrait discuter avec des spécialistes des autres pays, notamment aussi des États-Unis en particulier, que je connais moins, pour comprendre si j'ai raison, ou si l'hypothèse est valable, du moins, que la plupart des mouvements antiracistes français sont orientés vers les questions mémorielles du fait de la fermeture politique des autres voies de militantisme. Ils ont essayé, parfois, ils se sont heurtés à une fin de non-recevoir sur la plupart des dossiers qui ont été ouverts. La seule forme d'existence symbolique qui est, entre guillemets, autorisée, voie d'expression autorisée sur les minorités, c'est le cadre de la diversité qui s'est traduit dans une politique de mémoire différente à partir des années 90 en France. C'est un cadre symbolique. C'est une revalorisation d'une trajectoire culturelle et historique spécifique dans la nation, pas à l'écart de la nation, c'est une ouverture du récit national, mais qui n'emporte aucune conséquence sur le plan matériel, sur le plan juridique, sur le plan des droits. Et ça, c'est extrêmement important. Un petit regard comparatif va permettre de mesurer ça. Donc j'ai deux niveaux de comparaison, pour rien simplifier, donc le niveau national et les niveaux locaux. Qu'est-ce qu'on observe en France à partir de 1998 ? Je pense qu'ici, tout le monde est plus ou moins au courant, donc je vais aller rapidement. Les commémorations de 1998, le 150e, sous l'influence de Daniel Maximin, écrivain guadeloupéen, qui était la cheville ouvrière de ces commémorations, a pour la première fois associé la mémoire nationale française, c'était le gouvernement Lionel Jospin à l'époque, à une perspective héritée des luttes autonomistes, indépendantistes des différents départements antillais, en intégrant la mémoire de Delgrès, celle de l'ouverture, dans le rituel républicain. C'est le moment où, symboliquement, Delgrès et l'ouverture entrent au Panthéon. C'est une plaque parce qu'on n'a pas leur dépouille, mais bon, ils sont au Panthéon. Ce régime mémoriel nouveau cohabite avec le... Ça, c'est Joanne qui l'a bien montré. Cohabite avec le régime abolitionniste. Dans le même temps, les discours sur Schœlcher restent présents chez Jacques Chirac ou chez Lionel Jospin. Une partie du ressentiment ou des critiques qui ont été émises par la communauté antillaise, surtout à l'époque, sur cette commémoration, viennent de cette ambiguïté fondamentale de la commémoration. D'abord, il y a une réappropriation par l'État de figures symboliques qui étaient censées lutter contre l'État, enfin, qui avaient été appropriées par des mouvements qui luttaient contre l'État, ce qui peut être assez difficile à avaler pour certains militants qui viennent de ces milieux. D'autre part, valoriser la République à travers les luttes de généraux noirs qui s'opposaient aux troupes françaises à l'époque, c'est faire peu de cas des continuités de la lutte raciale et des difficultés concrètes, ou plutôt des inachèvements concrets de l'égalité juridique qui avait été octroyée sur place, à l'époque. Donc, en d'autres termes, il n'y avait aucune intégration des questions socio-économiques dans cette commémoration, et ça fait naître le besoin d'aller plus loin. Aller plus loin, ça a été la loi... Bon, je vais vite, hein, mais ça a été la loi Taubira. Elle est intéressante, la loi Taubira, à mon avis... Je préfère en parler avant qu'elle arrive, parce qu'elle serait... Elle serait capable de contester, évidemment, ces analyses. Elle est intéressante parce qu'on peut se demander pourquoi c'est une loi. La France est quand même le seul pays qui fait des lois pour régler ces questions-là. Les lois mémorielles, c'est un produit d'exportation qui marche mal. Il y en a quelques-unes au Sénégal, il y en a parfois en Turquie et dans d'autres sens. Mais pourquoi la France fait-elle des lois ? Alors, on peut y voir un héritage monarchique autour de la parole du souverain, bon, en l'occurrence l'État. Je pense qu'il faut prendre au sérieux cette idée. Les militants, Myriam Cotias l'a souligné hier, certains militants mémoriels parlaient depuis longtemps de faire reconnaître l'esclavage et la traite comme crime d'humanité. Ça s'est traduit dans une loi parce que, Bourdieu l'a bien montré, une grande partie des luttes des minoritaires, qu'ils soient femmes, homosexuelles, racialisées, prend pour ennemi les structures étatiques, tout en s'intégrant dans une reconnaissance du pouvoir de sanction et de véridicité de l'État. Donc la parole suprême qui valide une identité, et pas qu'une identité, c'est pas qu'une question d'identité, c'est une question de statut symbolique, de statut et de prestige dans la société, c'est la parole de l'État. Donc elle est incontournable. Sinon, on commémorerait l'esclavage entre soi. Ça pose pas de problème de se constituer une identité culturelle en tenant une cérémonie sur un site de mémoire, sans aucun maire avec son écharpe, sans aucun discours public. On ferait une construction ethnique sur la base du souvenir collectif d'un groupe. Mais là, ces luttes sont tournées vers la sanction. Le verdict, c'est dire le vrai de l'État qui a une parole reconnue. Je dis, elle n'est pas tombée du ciel comme étant légitimante, c'est le consensus social qui fait qu'elle est légitimante. Donc, quand une loi est passée, dire, c'est faire. Reconnaître l'esclavage comme crime d'humanité, comme crime contre l'humanité, c'est en faire un crime contre l'humanité. Mais c'est surtout faire progresser le statut social de ceux qui s'en réclament, de ceux qui s'y reconnaissent. On remarque aussi qu'elle est dans la cohabitation des régimes mémoriels, parce qu'après avoir mis l'accent en 98 sur l'ouverture d'Elgrès et les gens qui se battaient armes à la main, les héros, on en revient à la notion des victimes avec le crime. Les victimes sont nommées, les coupables ne le sont pas dans cette loi. C'est un crime sans coupable. C'est un crime sans justice autre que symbolique. Il est une loi qui est clairement bornée de son point de vue juridique. En Grande-Bretagne, rapide comparaison, il y a le bicentenaire en 2007, on a des points communs, beaucoup de points communs avec la situation française. Et c'est souvent sous-estimé. C'est pas parce que la Grande-Bretagne a une politique spécifique sur ces sujets de race relations qu'il n'y a pas des points communs. D'abord, en 2007, il y a la même cohabitation de deux paradigmes mémoriels. L'exemple éloquent de la messe à Westminster Abbey est très parlant. Le trope abolitionniste. C'est le trope of moving on qui a été théorisé dans des bouquins sur ce sujet qui ont été... C'est aussi pour répondre aux questions qui étaient posées à Olivette, mais il y a des chercheurs de l'Université de York qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet et qui ont fait toute une série de publications où le trope of moving on est vraiment bien, bien analysé. Mais dans le même temps, et une différence entre l'Angleterre et la France, c'est que les commémorations étaient très décentralisées en Angleterre, ce qui est lié aux structures aussi politiques des deux pays, et que dans beaucoup d'endroits, notamment les acteurs culturels, dans les musées, ont intégré la dimension des résistances et la dimension de la souffrance liée à l'esclavage. Donc on avait une commémoration fondamentalement ambiguë, qui organisait une cohabitation entre les deux registres mémoriels. Ce qu'on peut appeler une cohabitation plurivoque, ce qui permet à chacun d'y lire son intérêt. Donc c'est une commémoration, quand elle est plurivoque, qui élargit l'espace d'assentiment qui peut lui être donné. Donc ça écrase toutes les dissensions possibles. Enfin, ou la plupart. Il y a en Angleterre un système de race politics qui a été calqué sur celui des États-Unis à partir des années 50. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'afflux de main-d'œuvre venu de Jamaïque et d'autres territoires a fait prendre l'idée chez certains dirigeants, beaucoup de travaillistes d'ailleurs de Labour, que l'Angleterre, la Grande-Bretagne, et même le Royaume-Uni, étaient en train de se transformer en une sorte de nouvelle version des États-Unis. des voyages ont été organisés et ils ont importé, au sens littéral, la politique raciale américaine. En tout cas, ces concepts clés. De là est née la logique de différenciation de traitement en fonction des appartenances raciales. Avant cela, la Grande-Bretagne était exactement l'égale de la France, un pays jacobin. C'est violent de dire ça, pour les Anglais s'y reconnaîtraient pas, mais elle était un pays culturellement jacobin, quelque part. Cela provoque. Ils ont changé de cap. Comme quoi les structures politiques et intellectuelles d'un pays peuvent être modifiées. Il faudrait essayer de confirmer, je fais appel à vous, cette hypothèse, qu'en Grande-Bretagne, l'investissement des acteurs militants de la cause raciale sur ces sujets, sur l'organisation du bicentenaire, sur la réaction, etc., et après, a été pour eux beaucoup moins importante. Et une idée est souvent revenue, c'est celle qu'il fallait faire quelque chose réellement, pas que symboliquement, pour la cause des Black British, qu'il fallait faire plus de mesures de la discrimination, qu'il fallait prendre des décisions sur le logement, qu'il fallait lutter contre le institutional racism que Blair avait accepté de reconnaître, le racisme de la police notamment, dans le dernier des Race Relations Acts, celui de 2001. Donc il y a un système institutionnel qui se donne les moyens de sanctionner le racisme beaucoup plus efficacement que la France aussi. En France, c'est une sanction pénale qui est très lourde à mettre en œuvre et quasiment jamais mise en œuvre. En Grande-Bretagne, c'est une sanction civile, qui est beaucoup plus fréquente. Et donc il y a des vraies différences. Il est très probable que cette ouverture du terrain de la lutte raciale sur des politiques concrètes rend beaucoup moins important le fait d'exister symboliquement dans l'espace public à travers la mémoire de l'esclavage. Ça a une importance, mais ce n'est pas le cœur. Il faudrait m'aider à voir si cette réflexion est valable pour le cas des États-Unis ou pas. Combien de temps il reste ? 10 minutes ? Si. J'espère que je ne vais pas être interrompu comme à Westminster. Au niveau local, on se retrouve avec des problématiques un peu différentes dans les ports, ce qu'on appelle les ports négriers. Faut-il les appeler négriers et reprendre la catégorie de nègres et de négriers ? Alors, c'est une autre question. À Liverpool, politique intéressante, en 1999, ils ont prononcé des excuses officielles. Le City Council a prononcé des excuses officielles. Alors que j'avais ici. On behalf of the city, the City Council expresses its shame and remorse for the city's role in this trade in human misery. The City Council makes an unreserved apology for its involvement in the slave trade and the continual effects of slavery on Liverpool's black community. Tony Blair, à qui on avait demandé des excuses, s'est contenté de parler de shame et express his remorse, je crois. Donc dans la version de Liverpool, il y a regrets peut-être, oui, regrets. Dans la version de Liverpool, il y a une apology tournée vers une cible. Quand on exprime sa tristesse ou sa honte, il n'y a pas de public mis en face. On l'exprime à l'humanité, finalement, pour soi surtout. L'apologies, ça s'adresse à quelqu'un en face. C'est une relation de face à face. C'est pour ça qu'elle est inconvenante dans le système intellectuel français, qu'elle n'a jamais été demandée, quasiment jamais. C'est parce qu'elle ne cadre pas du tout avec l'idée qu'il pourrait y avoir deux communautés qui se feraient face dans un système républicain où il n'y a qu'une identité, qu'une appartenance. Quand on fait la loi Taubira, c'est une loi qui s'adresse à l'universel aussi, qui ne s'adresse pas en particulier à un public. Un crime contre l'humanité, humanité. Pas un crime contre les descendants d'esclaves. Donc cette position de face à face, elle est rendue possible par le cadre culturel britannique, par le fait que les politiques of apology sont fréquentes dans le contexte postcolonial. On a eu des excuses aux États-Unis présentées, au Canada sur les questions de Native Americans, en Australie sur les questions d'aborigènes, etc. C'est fréquent, mais c'est lié à la politique des minorités. Ça prend un sens particulier à Liverpool parce qu'il y a une histoire raciale dans la ville. avec un niveau de discrimination très fort, et une population noire qui est très ancienne, qui remonte à la fin du XVIIIe siècle, donc est associée à l'histoire, étroitement associée à l'histoire négrière de Liverpool. Cette mesure symbolique est à envisager au niveau des opportunités politiques et pas seulement au niveau de ce qui la rend possible dans les structures sociales britanniques. Pourquoi est-ce qu'on a une politique of apologists à Liverpool alors qu'on n'en a pas eu au niveau de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne en général ? Les raisons, il faut aller faire de la sociologie politique locale pour les comprendre. D'abord, il y a une alternance politique. C'est les Lib Dems qui arrivent au pouvoir à une époque où le reste du pays est travailliste. L'histoire de Liverpool est une histoire de très très grande tension entre le Labour, les travaillistes, et la communauté noire. Il s'agit d'adresser un signe qui soit aussi un symbole de rupture politiquement et d'intégration. D'intégration dans les objectifs de la ville. Ensuite, à Liverpool, il y avait une branche assez active de l'African Liberation Movement, mené par Bernie Grant, qui a beaucoup milité pour que des excuses officielles soient présentées par le gouvernement britannique. Et Bernie Grant était présent à la commémoration du 23 août 1999, organisée par le musée de Liverpool. Et il était en compagnie de Dorothy Kuya, qui est aussi une militante active de ce mouvement et qui est aussi de Liverpool. Donc on a un contexte d'importation cognitive de la politique des excuses dans la ville qui aboutit à ce résultat. On note, je fais une autre citation, qu'après le texte que je viens de vous lire, la politique des excuses de Liverpool ne s'arrête pas au domaine symbolique. This council, therefore, will facilitate ways and means for the city to voice this sense of remorse and further the process of reconciliations with the communities, countries and continents affected. Given Liverpool's situation as both a progenitor of these consequences and as multicultural city, this council will coordinate the use of all its powers to foster better race relations, greater equality of opportunities, and even greater diversity, so that the city is itself a celebration of multiculturalism. Donc il y a deux choses. Il y a une volonté de marketing territorial, identitaire autour de ce qu'est Liverpool, la multicultural city, à un moment où la ville est en train de se construire une nouvelle image. Et deuxième chose, je ne le mentionne pas là, mais ça suit, il y a une liste de voies possibles d'amélioration matérielle de la situation des communautés noires de la ville. Donc ils ne s'en tiennent pas, et c'est un peu pour corroborer ce que je disais, au registre symbolique. Il est toujours associé à ce qui va être fait concrètement. Blair, dans ses grands discours de 2007, associe toujours la reconnaissance de l'esclavage comme faisant partie de l'histoire britannique à l'identité multiculturelle qu'il veut mettre en avant de la nation et à un répertoire de politiques publiques concrètes qu'il compte mettre en place. Donc dans les documents officiels, il y a toujours la liste de ce qui a été fait et la liste de ce qui va être fait. On ne peut pas dissocier les deux enjeux. En France, on dissocie les deux enjeux. On donne une réparation symbolique, mais en même temps, on limite la dynamique de reconnaissance et de prise en compte des questions raciales à cette réparation symbolique. Il me reste un peu de temps. Five minutes, ok. Le point de comparaison que je voudrais mettre en valeur par rapport à Liverpool, c'est Nantes. Nantes n'a jamais présenté d'excuses pour être négrière, mais Nantes a fait un mémorial, le seul en Europe de cette ampleur, un grand mémorial, très intéressant. Je voudrais juste mentionner une partie des débats qui ont accompagné le mémorial de Nantes. Nantes a construit un mémorial pour des raisons qui n'ont pas tout à voir avec la reconnaissance de la communauté noire locale et la reconnaissance de sa situation. Néanmoins, au fil des débats, cette dimension d'en faire quelque chose qui soit tourné vers l'intégration symbolique des minorités a émergé et a été appropriée par la ville. Ce n'était pas leur préoccupation principale au départ. Je lis ce que dit un adjoint de la culture de Nantes. Nous nous sommes beaucoup fixés sur la position d'Aimé Césaire lorsqu'il dit que ce qui compte, c'est le récit national. Césaire s'est toujours opposé à des réparations, mais Césaire a toujours exigé que la République assume, dans son enseignement scolaire, dans son rituel républicain, son rituel, la commémoration, les rites, cette portion de l'histoire qui est une portion de nos concitoyens français. Ils ne seront français qu'à partir du moment où la République dira « Oui, ça fait partie de notre histoire, vous faites partie de notre histoire. Donc c'est sa mise en récit du mémorial. En face, dans l'opposition nantaise, mais pas seulement, intellectuellement, dans le même cerveau de l'adjoint à la culture et du maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, il y a un autre enjeu symbolique extrêmement important, c'est de ne pas dégrader le statut symbolique de Nantes, de l'identité locale et des Nantais, en les poussant à se présenter comme le port négrier, le port infâme, la ville qui certes reconnaît, mais qui ne fera jamais oublier qu'elle a construit sa richesse, sa prospérité sur ce trafic-là. La rhétorique politique qui désigne cette façon de penser se structure autour du thème de repentance. Il est frappant de noter que le thème de la repentance a structuré le débat mémorial en France, continue à le faire, dans le rapport Caspi, tous les rapports, qu'il est approprié de manière transpartisane, c'est pas les conservateurs français, c'est pas la droite qui parle de repentance, c'est tout le spectre politique qui toujours borne sa politique des mémoires au fait de ne pas franchir la limite de la repentance. Jean-Marc Ayrault, le maire de Nantes, l'ex-maire de Nantes, Nantes a su répondre à cet appel de la mémoire pour sortir de l'occultation et dire enfin son histoire, sans honte, sans fausse pudeur. L'objet, c'est Nantes. Sans rechercher de coupable ou esprit de repentance collective, parce que nous sommes comptables non de ce qui a été fait, mais de ce qui ne doit plus jamais être. Donc on ne peut pas être tenu responsable pour le passé, on est responsable éventuellement pour l'avenir. Conséquence, ce mémorial qui est créé par un artiste américain, qui est tourné vers le régime victimo-mémoriel, même si ce n'est pas nécessairement évident dans la structure esthétique du mémorial, qui est creusé dans le quai où étaient amarrés les navires négriers, et qui consiste à faire ressentir aux visiteurs l'expérience abstraite. Il n'y a pas de bruit, à part le bruit de l'eau, mais l'expérience intime, mais ça demande une mise en situation psychologique, c'est une sorte de méditation, du captif qui traversait l'Atlantique et qui était déraciné. Donc c'est une expérience esthétique et sensorielle, qui est tournée vers les victimes de la traîne négrière. L'artiste avait voulu proposer à la ville de Nantes que tous les paquets de café qui étaient vendus dans la ville soient taxés, d'une taxe symbolique, pour rappeler le commerce des esclaves. Tir de barrage de la municipalité qui considérait que ça, c'était une culpabilisation excessive, typiquement américaine, des guillemets. Wodichko a toujours été renvoyé à son identité américaine. Il est polonais d'origine, installé à New York. Et c'était quelque chose... Il y avait des questions juridiques aussi. Les villes ne peuvent pas lever de taxes en France, donc c'était évidemment impossible. Mais le débat s'est situé ailleurs. Pas de culpabilisation des Nantais. Du coup, est revenu dans la stratégie de présentation du mémorial le paradigme abolitionniste. C'est un mémorial qui s'appelle Mémorial de l'abolition de l'esclavage. Ce qui peut sembler anachronique dans la mesure où il a été inauguré en 2012, mais bon, lancé bien avant, mais inauguré en 2012 à un moment où la commémoration de 98 et la cohabitation entre les différents régimes étaient lointaines. Mais néanmoins, ils en sont restés, cette séparation, cette concurrence, cohabitation entre plusieurs régimes reste présente. En conseil municipal, alors que les débats ont été vifs sur ce mémorial, l'adjoint à la culture, j'ai entendu ici ou là qu'il y aurait des problèmes de repentance. Je ne vois pas, si on parle de l'abbé Grégoire, donc un grand abolitionniste de la Révolution, la première abolition, je ne vois pas, quand on parle de l'abbé Grégoire, quel est le rapport avec la repentance. Non, il s'agit bien d'un monument à l'abolitionnisme, c'est-à-dire à l'ensemble de ceux qui ont lutté et lutteront sur cette question, et en général, après avoir précisé cela, il parle de l'esclavage moderne et du fait qu'il y a avant tout les droits de l'homme, les luttes pour mettre un terme, que ça, c'est ce qui compte. C'est pas de s'apesantir sur, encore un trope of moving on, c'est pas s'apesantir sur le passé. Alors que le langage de l'œuvre est beaucoup moins univoque, c'est une œuvre beaucoup plus multivocale aussi. J'en arrive à ma conclusion. On pourrait aussi mentionner le cas de Bordeaux, où le débat sur la repentance a été très très important. Et il y a un rapport, une sorte de comité des sages qui avait été mis en place, le comité Tillenac, où la notion de juste mémoire était questionnée, mais était utilisée. Mais ce qui était, c'était en exergue de leur rapport. Mais ce qui était très intéressant, c'est que la juste mémoire n'est pas la mémoire juste. C'est pas la mémoire qui rend justice. C'est la mémoire qui est juste d'un point de vue. éthique pour Ricoeur, mais pas éthique pour les élus bordelais. D'un point de vue politique, c'est la mémoire qui se situe à mi-chemin entre les demandes probablement un peu légitimes quand même des descendants d'esclaves, entre guillemets, et les demandes probablement même un peu plus légitimes des bordelais de ne pas être culpabilisés pour leurs ancêtres. La juste mémoire, c'est une mémoire de compromis, pas une mémoire de justice sociale. Sinon, on irait dans un autre sens. C'est pour ça qu'à mon avis, Ricoeur fait de la politique quand il parle d'excès de mémoire. On ne peut pas dissocier le registre éthique du registre des stratégies d'acteurs. Un mot de conclusion. Ces comparaisons générales, au niveau de la France et de l'Angleterre, valident la théorisation, la généralisation de Joanne sur l'évolution des paradigmes mémoriels et leur concurrence. Mais elle permet de voir aussi le nombre assez grand, finalement, de nuances, de limites, d'appropriations politiques contradictoires qui se cachent derrière ce paradigme global qui voit arriver de nouvelles mémoires, etc. Il y a un rôle très important des stratégies d'acteurs, un rôle des conjonctures, un rôle des autres objectifs que la reconnaissance dans les politiques de mémoire. Le marketing territorial, la construction nationale qui doit rester une construction de fierté glorieuse, à ne pas oublier. Tout ça oblige à faire des concessions sur les régimes émergents qui sont ceux de la reconnaissance et de l'amélioration du statut symbolique des minorités ethniques et raciales. Voilà, je m'arrête là.
Thank you, Renaud. We have now about 20-25 minutes to engage questions. Olivette?
Merci pour la présentation. Et c'est d'autant plus intéressant que, justement, il y a cet aspect comparatif et ce positionnement, encore une fois, qui te permet de prendre une certaine distance que je n'ai pas nécessairement. Il s'agit de la politique mémorielle britannique. Mais je devrais quand même dire que on peut parler de la politique locale, c'est vrai. Tout ce que tu dis, absolument. Il faut rajouter cette dimension religieuse qui va lier les deux communautés religieuses, culturelles. Culturellement, britanniques, originaires des Caraïbes et britanniques, mainland Britain, ils partagent ça, ils ont ça en commun, ce qui va permettre justement ce travail de repentance, cette idée de s'excuser ou en tout cas d'exprimer ses regrets sur la scène publique. Ça passe très bien parce que c'est culturellement acceptable aussi. C'était juste un commentaire.
Oui, c'est tout à fait intéressant. Il faudrait le creuser. La France étant un pays de culture catholique, le terme de repentance n'a pas du tout le même statut. Le repentir peut être positif, ça vient de la religion évidemment, la repentance. Mais la repentance a pris un sens politique dans les années 90 qu'il n'avait pas auparavant. Il y a une valorisation de la repentance qui disparaît au profit d'un discrédit sur cette attitude. Donc il y a là, c'est un point de très grande différence entre le contexte britannique et le contexte français.
Bon, merci beaucoup. Moi, j'ai été passionnée, d'autant que c'est des thèmes qui me sont chers aussi de par mes recherches. Et puis, ce que je trouve bien, c'est que tes recherches vont un peu après. C'est temporellement, après ce que moi j'avais pu étudier. Et puis, c'est incroyable, moi, quand je te lis et quand je t'écoute, comme je vois comme ça a changé entre les régimes mémoriels, ça a été d'une rapidité extraordinaire. Alors, après te complimenter, je vais avoir quelques petites remarques plutôt. J'en aurai trois. Pour dire, quand tu dis que tous les canaux de revendications sont bouchés, je reprends à peu près tes termes, en France, je pense que c'est partout ailleurs. C'est que le mémoriel est devenu le ressort de la revendication, me semble-t-il, c'est un des arguments que je développe, partout, parce que c'est bouché partout avec, j'ai pas tombé dans une rhétorique un peu banale, mais avec l'ultralibéralisme qui nous a envahis, il n'y a plus que l'éthique comme ressort de l'action, et je pense que cette idée comme quoi, avec la chute du mur de Berlin, avec tous les ressorts de l'action collective en termes de lutte des classes internationales, anticolonialisme, etc., tous ces ressorts-là sont bloqués, et il me semble que c'est partout. Et le mémoriel est un ressort Mais là, nos collègues des États-Unis pourront le dire ou le contredire. Hein. Ensuite, la deuxième chose que je voulais te dire, te demander pourquoi c'est une spécificité française, les lois mémorielles. Parce que ça, j'ai pas compris la réponse. Est-ce vraiment une spécificité française ou pas? Je pense à la conférence d'Urban où il y a eu quand même des choses qui ne sont pas sous forme de loi, mais qui sont sous forme de... comment on peut appeler ça, de résolution, je ne sais pas trop le terme, mais enfin, voilà. Ensuite, je suis gênée, mais alors là, on serait rentré dans une discussion épistémologique, etc., par cette affaire du symbolique et du concret. Je pense que les politiques symboliques sont des politiques hyper concrètes. Et donc, ce mot, c'est pas une critique qui t'a adressée directement, c'est notre vocabulaire qui est extrêmement pauvre en sciences sociales pour penser le symbolique. Le symbolique, alors je ne sais pas si par moment on ne devrait pas dire éthique ou même culturel, pour montrer la scission entre tout ce qui est de l'ordre de l'accès aux ressources matérielles, et mais qui relèvent aussi d'un système symbolique. Donc on est un peu là, et ça nous ennuie là quand on parle du mémoriel, d'avoir ce mot symbolique qui est de double usage, puisque tout système, tu l'as dit très bien en introduction, tout système sociétal est un système de représentation. Et donc, il nous faudrait un vocabulaire plus précis pour montrer que les politiques mémorielles sont des pansements, ou un peu, par rapport aux conditions matérielles et d'accès aux ressources matérielles. Voilà. Et là, après, on dit oui, mais les ressources matérielles, c'est par rapport ça s'oppose aux ressources symboliques. Ce que je ne crois pas, c'est plutôt l'éthique, la morale, les valeurs. Voilà. Donc, et ensuite, quatrième point très rapide, la loi Taubira qui est universelle. Elle est tellement universelle que du coup, on en oublie qu'en France même, on a pratiqué l'esclavage. Et ça, je trouve que c'est une réflexion très pertinente de l'anthropologue Richard Price, qui avait assisté, après les votes de la loi Taubira, c'était en 2000 et quelques, je ne sais plus quand, à des expos en Martinique, où on parlait de l'esclavage, mais qui s'était pratiqué partout, sauf en France. Et il a cette réflexion très pertinente. On dirait que c'est, oui, effectivement, c'est un crime contre l'humanité, mais qui semblerait avoir épargné, en définitive, les Français eux-mêmes. Et je pense qu'il n'a pas tout à fait tort dans la réception elle-même, auprès... et d'ailleurs, on voit comment est présentée la loi Taubira, premier pays à avoir voté une loi qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité, etc., mais qui ne le resserre pas dans son espace national. Ouais.
Alors c'est un jeu de questions importantes dans lequel il faut que je peut-être que je fasse mon marché. Mais à mon avis, la question de la statut symbolique est essentielle, et je crois qu'il faut utiliser symbolique sans s'arrêter à l'idée que le symbolique s'oppose au matériel, en considérant que le symbolique est un dérivé du matériel et le matériel un dérivé du symbolique, et que les deux sont entrelacés anthropologiquement, et quand on pense l'un, on pense aussi un peu l'autre en même temps. Il n'y a pas de dissociation. C'est la critique que fait Nancy Fraser par rapport aux théories de la reconnaissance d'Axel Honneth, en disant la reconnaissance est envisagée dans le registre moral pour Honneth, une confirmation de soi, une dégradation de son prestige, son honneur, etc. Pour elle, et Honneth n'insiste pas assez sur le fait que les conséquences principales dans la vie sociale de ces jeux de statut sont des conséquences matérielles. La discrimination, le regard infériorisant sur le noir ou l'Algérien a des conséquences sur l'accès au travail, l'accès au logement des Noirs et des Algériens. Donc la discrimination vient d'un système symbolique, elle se traduit dans la vie quotidienne. Il n'y a pas de dissociation possible pour moi. Mais néanmoins, je choisis de placer la focale, l'entrée sur le symbolique, en acceptant ce mot, je pense. Même si ses usages en anthropologie sont d'une variété hallucinante, et qu'il faut faire un très très gros travail conceptuel pour pouvoir bien s'en servir, mais je pense qu'il est utile. Il y a des usages en psychanalyse aussi, beaucoup, c'est lacanien, là, bon bref, on peut aller très loin. L'autre question vraiment qui me parle le plus... C'est l'éthique comme ressort de l'action, je suis tout à fait d'accord avec toi, entièrement, même sur le paradigme libéral qui ferme les possibilités de mobilisation sur les registres matériels. L'éthique est devenue
un point central de l'agir politique dans l'ordre dominant vers dominé du gouvernement, dans l'ordre de la revendication du dominé vers le dominant aussi. Et pour en rester aux questions mémorielles, ça mérite d'être élargi à la question postcoloniale. C'était une question que un point que Michael soulignait hier. Qu'est-ce qu'on fait des questions de mémoire de l'esclavage dans la mémoire coloniale française? Il faut les penser ensemble. Et effectivement, les mouvements antiracistes des années 80 ont quasiment disparu sous leur forme, la marche des beurs, etc. Ils sont beaucoup reconfigurés, ils ont beaucoup été récupérés politiquement, mais il n'y a plus du tout cette force aujourd'hui. Il y a deux traductions des mouvements sociaux. La traduction religieuse, qui est éthique, autour de l'islamisme. La traduction violente, qu'on peut traduire comme une insuffisance de d'autres modalités d'expression, et la traduction mémorielle autour des indigènes de la République, de faire des liens entre l'indigénat et la situation des Maghrébins en France, etc. Donc oui, un retour à l'histoire, parce que le reste n'est pas possible, à part la culture, la culture et la religion, qui sont une autre voie, mais c'est aussi une voie éthique, qui est proche de la mémoire, à mon avis. Je m'arrête là pour les réponses.
Crystal, and then. We have only 10 minutes left. Please raise your question in a matter of seconds, if you would.
Ça va pas marcher là. Je vais parler pendant des heures et des heures. Ma question. En fait, je commence avec un commentaire. J'ai adoré votre présentation. C'était très très fascinant, surtout avec le dialogue entre votre intervention et celle d'Olivette. Donc, j'apprécie beaucoup vos travaux. Ma question, d'abord la commentaire, par rapport aux États-Unis, mais en général, on a beaucoup parlé de mémoire. Le problème aussi, c'est l'éducation. Donc aux États-Unis, il y a un manque d'abord d'une reconnaissance de l'histoire de l'esclavage au niveau symbolique. Il n'y a pas de musée. Et je ne pense pas qu'il y aura un musée. Ça vient pas. Il y aura le musée de la culture afro-américaine à Washington DC qui vient, mais c'est pas spécialement focalisé sur l'esclavage. Mais on a tellement travaillé sur les questions réelles du racisme que, pour moi en tant que professeur, ce que je constate, c'est que mes étudiants ne comprennent pas ce que ça veut dire d'être noir. Donc ils comprennent que le racisme existe, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas comment faire le lien entre le racisme d'aujourd'hui et le racisme qui a été construit après l'esclavage et la colonisation. Donc il y a un manque de connaissances qui existe à cause de le non-traitement de l'histoire de l'esclavage aux États-Unis. Ma question, et là j'espère que je ne... I hope I'm not bothering you too much. I'm going to wrap it up, Michael. Don't worry. Mais ma question, c'est que je pense que peut-être c'est évident que je m'intéresse beaucoup aux questions des Blancs et la question de non-racialisation des Blancs au sein de ces questions. Même lors de votre intervention, je ne pense pas que vous avez utilisé le mot blanc. Par contre, vous avez parlé de la communauté noire et j'aimerais vous poser cette question par rapport au non-traitement de la question blanc dans les deux pays.
Concernant la France, vous y avez répondu hier en notant qu'on ne parlait pas d'un point de vue général de whiteness et de population blanche, sinon par effet négatif quand on mentionne les minorités ethniques. Ça veut dire qu'il y a une majorité. Mais le propre de la majorité, c'est de n'être pas dite. C'est ça la violence symbolique aussi, c'est que la majorité existe dans les consciences, sans être jamais questionnée. Le fait qu'il existe des minorités, logiquement, implique qu'il y ait une majorité, mais elle n'a pas d'existence verbalisée. Elle est juste tellement évidente qu'on n'a pas besoin d'en parler. C'est le premier point. Et ensuite, j'en suis... une victime et un renfort quand dans mon texte je mentionne des communautés noires qui existent, mais sans prendre le soin de dire qu'en face, ou avec, c'est toujours compliqué, il y a une majorité blanche. Je suis la preuve vivante de ce biais. Et je pense que la question de la whiteness est particulièrement travaillée sur le thème de la repentance. Il s'agit de ne pas concéder trop à la culpabilité, à la culpabilisation, d'une manière qui abattrait le moral, l'appartenance, le sentiment d'appartenance à une identité blanche, fière, valeureuse, triomphante. Il y a dans le débat intellectuel ou pseudo-intellectuel français, quand on essaye de remonter la généalogie intellectuelle de cette notion de repentance, on tombe assez vite sur les écrits de Pascal Bruckner, de Finkielkraut plus tard. Et Bruckner, dès la fin des années 80, écrivait un bouquin qui s'appelait Le sanglot de l'homme blanc, dans lequel il disait que on était le blanc, pour lui, c'est une catégorie de pensée. Hein. Le blanc, c'est l'occidental. Le blanc était en train de perdre sa superbe, était attaqué par, symboliquement et pas seulement par la montée des revendications sur la scène internationale de pays en voie de développement, etc., mais qu'il était surtout en train de perdre de sa suprématie culturelle et qu'il y avait probablement un espace, une légitimité à la défendre. Là, on est dans la construction de la whiteness. Et la repentance, c'est la construction de la whiteness.
Madame. This will be the last question, and then I'm going to wrap up with one final comment. Please.
Oui, voilà, donc je voulais vous remercier, en fait, pour votre présentation. J'ai trouvé particulièrement intéressant la comparaison entre Nantes et Liverpool et les liens faits avec les exposés précédents. Donc, moi, ce que ça évoque, je n'ai pas de questions particulières. En fait, voilà, je suis Muriel Gauthiero, auteure donc d'une thèse sur l'entreprise Beauport à la Guadeloupe. Et par rapport à ce qui nous est présenté là ce matin, c'est surtout des liens avec le travail de terrain que j'ai pu faire dans l'île Grande Terre sur les activités de cette entreprise qui a produit du sucre de canne et qui a développé un système de plantation industrielle dans cette partie de l'île. Donc c'est surtout, ben, en fait, comment se pose cette question mémorielle dans ce territoire qui a été investi par les activités de l'entreprise Beauport, et surtout comment les Guadeloupéens, mais pas seulement eux, comment la population, tous les acteurs sociaux font face, en fait, à ces questions de patrimoine et de mémoire de l'esclavage. Voilà, merci encore.
Merci. J'irai lire votre travail avec intérêt.
Let me just one very brief. Your study, your comparative study, enables us to think about strategies of how the memory of slavery and its memorialization enables us to evoke the past in order to address the present. So my question to you is, how can the examples that you use that mediate at a very local level, city, whatever, affect how we think about the discourse of race and slavery at the national level in a strategic sense?
Well, I would answer that the dominant trend is rather from the national level toward the local one. That there is not quite any specific construction of race or construction of memory that is made at the local level that you can find appropriated at the national one. However, you may notice that the port, the city of Nantes, was in advance regarding the recognition of slavery, and that it's been looked at and used as an example when other places have had, not the nation, other places have had to reflect upon their own past as slave ports. And there are many exchanges and ideas that circulate between Liverpool and Nantes, Bristol and Bordeaux, that has been studied by Christine, and things like that. I I'm not answering exactly to your question, but I'm pointing out to the fact that local levels are influencing each other.
Thank you. Olivier, Renaud, merci.